départ que je tirais une ficelle s'il n'en finissait pas. C'est un sujet très présent dans la Bible. Et j'avais de quoi faire 30 prédications, mais enfin, je me suis dit aujourd'hui, une seule suffira. Pas pour résumer, parce qu'on ne résume pas. Ça n'a pas de sens. On va simplement voir quelques points pratiques d'encouragement, de soutien, et puis on pense aussi, on n'est pas là devant un écran, derrière, devant nous, il y a les souffrants qui sont cachés. Non, on est avec eux. Ils sont peut-être à côté de vous, des souffrances familiales, professionnelles, de santé. Alors on pense, on va vivre ce que nous allons méditer. Donc, je voudrais lire dans la première épître de Pierre, épître de Pierre au chapitre 4 et au verset 12. 1 Pierre 4, 12. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire de pas normal. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Vous rappelez le sermon sur la montagne, bienheureux ceux qui sont persécutés. Vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. On peut tuer son frère sans arme, vous savez, avec la parole. Que personne ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Et puis, au chapitre 5 et au verset 10, un verset pour conclure. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Quel mystère que la souffrance. Et pourtant, nous la disons à chaque fois que nous prions, délivre-nous du mal ou du malin. Nous sommes confrontés tôt ou tard dans notre vie à cette grande question de la souffrance. Maladie, des douleurs morales, psychologiques, des souffrances de dépression, des deuils, des handicaps. Nous côtoyons, nous vivons, nous le vivons parce que nous sommes dans un corps de chair. La Bible évoque la souffrance dès les premières pages. En passant par les psaumes, en passant par Job, les évangiles, l'Apocalypse, c'est un parcours de souffrance que le chemin qui mène au royaume de Dieu. Quand Ève a découvert pour la première fois de l'histoire humaine le corps de son fils Abel, mort sur le sol de leur paradis, quelle détresse! Elle a dû se demander, il va sûrement se réveiller. Il ne se réveillait pas. Grande souffrance. Là, Jésus nous donne une parabole de l'ivraie et du bon grain. Le Fils de Dieu sème le bon grain, l'évangile. Et puis, pendant que les gens dorment, un ennemi vient et il sème de l'ivraie. Ça ressemble au blé, mais c'est mortel. Et puis, l'ivraie pousse avec le blé et tout se mélange. Veux-tu qu'on ait déraciné l'ivraie ? Vous connaissez la parabole. Mais quelqu'un a dit au maître de la maison, « Mais d'où vient qu'il y ait de l'ivraie ? N'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ?» Indignation. « Mais comment ? Tu as semé une bonne semence et voici de l'ivraie. » Le Christ dit dans la parabole, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi, c'est pas lui. C'est pas Dieu qui fait le mal, c'est un ennemi. Et Jésus le dénonce. Au moment de la déportation, de l'esclavage en Égypte, le Seigneur disait à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Je connais ses douleurs, j'ai entendu ses gémissements. Dieu est à l'écoute de nos souffrances. D'où vient la souffrance? Je le rappelle, Dieu n'est pas la cause de nos souffrances, car à l'origine, Dieu a tout fait par amour et compassion. Tout était beau et bon. Dieu vit que cela était bon. Et la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable, parfaite. Mais la créature, vous et moi, nous nous sommes opposés au Créateur. Et nous nous sommes laissés aller dans cette connaissance du mal. Vous vous rappelez de l'arbre, de la connaissance du mal, du bien? Et on a goûté, et on a persévéré, et on a continué à connaître, à développer le mal. Nous sommes devant un mystère. Dès le départ, on ne sait pas très bien d'où vient le mal. On a l'impression que c'est l'homme, on a l'impression que c'est un serpent, mais qui a mis le mal dans le serpent? C'est compliqué. Nous sommes devant un mystère, nous ne connaissons pas l'origine du mal, car Dieu a tout créé avec amour pour le bonheur de tous, que ce soit des anges, des hommes, de tous. La souffrance n'est pas une punition de Dieu. Je repense à l'aveugle de Jérusalem, le mendiant de Jérusalem. Les apôtres passent devant, il est aveugle et il pose une question, je dis pas maladroite, absurde, une question qu'il ne fallait pas poser. Qui a péché pour qu'il soit né aveugle, ses parents ou lui? Et Jésus va répondre, c'est pas lui qui a péché puisqu'il est né comme ça et ce sont pas ses parents. Ce n'est pas lui, ce ne sont pas ses parents. Donc, la souffrance, on peut dire, Dieu a rendu des jugements, c'est vrai, mais dans l'ensemble, souffrance physique, des corps, des santé, elle n'est pas une punition. Il y a eu, au temps de Jésus, une catastrophe, une tour qui s'est écroulée sur des 18 personnes qui ont été tuées. La tour de Siloé. Et tout le monde a été effrayé, c'était le grand événement de l'époque. Et Jésus a dit, pensez-vous que ces personnes qui ont été tués étaient plus coupables que les habitants de Jérusalem? Ça veut dire, si le Seigneur rendait des comptes, ce serait peut-être pas elle qui serait punie en premier, mais d'autres. Mais nous portons dans notre vie les marques de la souffrance, les signes d'une création qui a été gâchée par le péché. On porte ces signes. L'enfant peut naître handicapé. On peut, avec l'innocence de notre âme, être handicapé, malade, sans être responsable. On porte seulement les signes d'une création gâchée par le péché. Alors les souffrances, il y a des souffrances dont je suis responsable, parce que je gaspille ma vie dans l'alcool, le tabac, le manger, les folies, la violence. J'en suis responsable. Et puis il y a des souffrances causées par les autres, parce que on me tend des pièges, parce que on me blesse. Et puis il y a des souffrances dont la vie aveuglément nous accable. Quand il y a la guerre, ce ne sont pas les enfants qui sont responsables, ce sont simplement les hommes, l'humanité qui n'a plus conscience de rien. Alors il y a des souffrances qui ne sont pas maîtrisables, qui ne sont pas prévisibles. Parfois on m'a dit, il faudrait offrir à Dieu nos souffrances. C'est une expression ça. Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'offrir à Dieu nos souffrances. Lui, ce qu'il veut, c'est plutôt notre amour, un sacrifice vivant, une vie pour lui, une vie de service, de consécration. On n'offre pas ses souffrances à Dieu, mais on offre plutôt le temps de ses souffrances, afin que pendant ce temps de trouble, puissions sauver toutes nos capacités, pas qu'on soit diminué, qu'on soit devenu irritable, irrité, amer, renfrogné. On offre à Dieu toutes nos capacités pour les sauver de l'anéantissement, parce que la souffrance peut nous démolir, nous anéantir, nous détruire, enlever toute volonté, toute joie, tout bonheur. Alors on veut sauver l'être intérieur. La souffrance, c'est pas un prix à payer pour être plus agréable à Dieu, non. La souffrance, le Seigneur nous dit plutôt, faites connaître à Dieu vos besoins par des supplications, par des prières, par des louanges. Faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits. La souffrance, elle n'est pas rédemptrice, c'est-à-dire méritoire. C'est pas parce que je souffre que je suis pardonné de mes péchés. La souffrance, c'est pas fait pour gagner la faveur de Dieu, pour gagner la grâce de Dieu. La grâce est gratuite. La grâce seulement suffit pour être sauvé, guéri, pardonné. Dieu ne prend pas plaisir à nos souffrances. Il se souvient que nous sommes poussière, et le Seigneur est venu pour se charger de nos souffrances. Il ne prend pas plaisir à nos souffrances. Alors, vous traversez des souffrances, il ne faut pas se résigner en disant, bon, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, ça fait partie de l'humanité. Je vais vous raconter l'histoire de ce roi de la Bible qui s'appelle Ézéchias. Quand il avait, je crois, 39 ans, le Seigneur lui a dit par le prophète Ésaïe, « Fais tes affaires, arrange ta maison, tu vas mourir. » Que voulez-vous faire à cette parole? C'est Dieu qui a dit ça. « Tu vas mourir, prépare tes affaires. » Ézéchias n'a pas dit, « Je me résigne, c'est comme ça. C'est comme ça et je ne peux pas faire autrement. Je vais mourir. » Ézéchias a pleuré. Ézéchias s'est tourné vers le mur de sa chambre et il a prié. Et le Seigneur lui a renvoyé Ésaïe en lui disant, « J'ai entendu ta prière. j'ai vu tes larmes et je te délivrerai. » Ézéchias ne s'est pas résigné en disant « Puisque c'est comme ça, allons-y. » Non, « Seigneur, aie pitié de moi, regarde-moi. » Et le Seigneur a guéri Ézéchias. Alors ne baissez jamais les bras, continuez de prier. Je crois que Dieu vous attend dans la persévérance de la prière. Mais la prière est primordiale dans toute la vie. Quand on a besoin de travail, on prie. On ne dort pas. Quand on est malade, on prie. On ne se résigne pas. Si quelqu'un est dans la souffrance, après, qu'il prie. C'est une promesse pour ceux qui souffrent, qu'il prie. Si Dieu nous dit ça, c'est que Dieu entendra la prière. Dieu a mis dans l'Église des dons de guérison. Il nous a donné l'onction d'huile comme symbole de sa présence pour prier pour les malades. Il nous a donné la prière de la foi. On croit et on demande. Et la prière sauvera le malade. Le Seigneur nous attend dans la prière. Quand quelqu'un est malade, l'Église est invitée à venir auprès du Seigneur. Quand on fait l'onction d'huile, l'Église a son ministère. L'Église, elle est là en prière et ce qu'elle va faire est important. S'il n'y a pas de guérison, la non-guérison, ce n'est pas un manque de foi. Je pense à l'apôtre Paul qui avait la foi, je pense que vous le savez. Et il avait une écharde, une difficulté, peut-être dans sa santé, peut-être dans sa vie de pasteur, d'apôtre. Il était toujours, toujours malheureux en lutte contre des hommes qui n'étaient pas du tout bien et pas chrétiens. Et c'est une écharde qu'il avait dans sa chair. Il avait la foi et il a gardé cette souffrance toute sa vie. Et Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit, je suis avec toi, va ». Ne t'arrête pas à ce que tu souffres, à ce que tu vois, à ce que tu ressens. La non-guérison n'est pas signe que nous avons un démon. C'est pas parce que vous n'êtes pas guéri que vous avez un démon. Jésus a été un homme de douleur toute sa vie. Il a été habitué à la souffrance. Et il n'avait pas de démon, bien sûr. Je pense à l'apôtre Paul qui faisait des guérisons et il avait un de ses disciples qui s'appelait Trophime et qui était malade. Il a dû prier pour lui, il a dû lui imposer les mains, il avait confiance et Trophime est resté malade. Il y a des mystères dans la maladie, il y a des mystères dans la guérison et dans la non-guérison. Être béni, ça ne veut pas dire rouler sur la santé, rouler dans toute la vie sans difficulté, intouchable, jamais atteint, jamais malade, jamais de problème de dents, de reins, de dos, de pieds. Ce n'est pas ça la bénédiction. Vous connaissez cet homme qui n'a pas de jambes et qui n'a pas de bras et qui prêche l'Évangile. La bénédiction, ça aurait été qu'il retrouve ses bras et ses jambes, mais par ce moyen-là, il touche 100 fois plus de gens. Nous avons des cas aujourd'hui dans le monde étonnants. Oui, mes amis, quand on est dans la bénédiction, ce n'est pas pour cela que nous allons être riches et ne jamais souffrir. L'apôtre Paul était un homme choisi par Dieu avant sa naissance. Et il disait à la fin de sa vie, « À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé ? À Antioche, à Lystre, et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Il n'avait que épreuve sur épreuve, faux frères, difficultés de la part des brigands, etc. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut arriver au royaume de Dieu. C'est Paul qui le dit aussi. La souffrance peut avoir un sens. Elle éprouve nos certitudes. Elle éprouve notre foi. Quand on souffre beaucoup, on ne peut pas tricher. On peut pas dire « ça va bien ». On souffre. Nous sommes à l'épreuve. Non pas que Dieu prend plaisir à cela, mais le temps de la maladie est un temps d'épreuve pour nous. C'est étrange, quand on a la santé, on a une certaine confiance dans une force qui ne s'arrêtera jamais. une confiance que la durée de la vie ne s'arrêtera pas. On a une confiance. Et puis tout à coup, eh bien, tout s'ébranle. On n'a peut-être pas mis assez d'huile dans nos lampes, pas assez de connaissances de Dieu, pas assez de lecture de la Bible, et on ne comprend pas. On me l'avait dit souvent, je comprends pas, je suis malade, je comprends pas. C'est parce qu'il n'y a pas d'huile, c'est parce que vous n'avez pas sondé les Écritures. Oui, vos jours s'évanouissent en fumée, et le Seigneur est bon avec vous. Amen. Et il nous prépare une place là-haut. Quand on a jeté des pierres sur Étienne, qui mourait à genoux, par terre, devant l'apôtre Paul, encore pas apôtre, on disait, mais c'est un gâchis complet, ce diacre magnifique. Mais il voyait Jésus debout dans le ciel qui l'accueillait pour sa venue dans le royaume de Dieu. L'apôtre Pierre dit que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Non seulement elles souffrent, mais il faut faire ce qui est bien. Alors c'est quoi souffrir selon la volonté de Dieu? C'est quoi? Je pense que c'est à force de peine que tu tireras ta nourriture du sol au commencement du monde. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et tout à coup, on se rend compte qu'il y a des morceaux de poussière qui tombent. On diminue. Ça fait partie des choses que Dieu a voulu ainsi. Il a abrégé la vie suite au péché et il faut vivre ces conséquences-là. Notre homme extérieur se détruit. Ça, c'est une souffrance qui correspond au plan de Dieu qui a été rattrapé. Oui, rattrapé, mais on a à subir certaines condamnations par la mort pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais je pense que tout ce que nous subissons sur la terre peut contribuer à notre gloire dans le royaume de Dieu. Nos légères afflictions, j'aime bien le mot légère. Quand on souffre, on ne dit pas que c'est léger, on ne dit pas que c'est rien. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est-à-dire que dans cette vie, on ne sera pas délivré de tout. Mais pendant que nous sommes en train de nous battre avec les examens, les médicaments, la santé, les douleurs, les inquiétudes aussi, par notre persévérance, par notre constance, nous préparons l'avenir avec un poids de gloire au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Alors la souffrance a un certain sens. Voilà. D'ailleurs, la souffrance, la maladie, nous apprend à nous dépouiller des futilités. Quand on est parfois jeune et en bonne santé, on s'arrête sur des petits détails. La maladie nous apprend à nous dépouiller de toutes les glorioles qui agitent notre vie, qui troublent notre vie sans jamais la renouveler, sans jamais l'embellir réellement. Il faut apprendre le sens et les valeurs de la vie. La souffrance, pour moi, je vais bientôt conclure, c'est un appel de Dieu à revenir à lui. Dans les souffrances, beaucoup se sont convertis dans nos églises. Les chrétiens sont revenus après avoir été parfois 30 ans partis. La souffrance les a ramenés au bercail, petit à petit. Je pense à Naomi, qui va quitter la maison de Dieu. Il y a de la famine, on mange pas bien, etc. Il n'y a plus rien dans les magasins. Et elle va partir avec son mari, et puis ses deux enfants, ses deux fils. Elle va partir dans une terre étrangère, comme le fils prodigue. Elle va partir dans une terre que Dieu a interdite aux enfants d'Israël, Moab. Puis à Moab, on mange bien, on boit bien, on s'amuse, on chante et on danse. mais son mari va mourir. Une grande épreuve pour une femme, de perdre son mari. Et puis, ses deux enfants, Maclon et Kiljon, vont mourir aussi. Ses deux fils, qui étaient mariés. Donc, c'est une famille très éprouvée. Et Naomi a dit un jour, mes belles-filles, je vais rentrer chez moi. Venez si vous voulez. Et vous savez que Ruth est partie avec elle. Mais l'épreuve a ramené Naomi vers la maison de Dieu, vers la terre de Dieu, vers la bénédiction de Dieu, parce que pendant qu'elle revenait, Dieu commençait à bénir le peuple juif de ce temps-là. La souffrance nous fait revenir à Dieu. Ça nous fait réfléchir. Pas toujours. Parfois, on s'irrite contre Dieu encore plus. Et on va même vers l'incrédulité, l'athéisme. Je connais des gens qui ont tout rejeté dans une souffrance pour devenir athées. Il y a du risque. Je pense maintenant, ce sera la conclusion, à une femme de la Bible qui connaît une grande douleur. Elle s'appelle Anne. Vous connaissez Anne, la mère de... Vous connaissez la famille ? Oui, la mère de Samuel. Et cette femme était triste parce que elle n'avait pas d'enfant et ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors que son mari, il avait une deuxième femme. C'était comme ça. Et la deuxième femme, elle avait des enfants. Et Anne pleurait. Et tous les ans, ils allaient en pèlerinage à Silo, où était la maison de Dieu. Et Anne pleurait. Et un jour, elle a prié le Seigneur dans la maison de Dieu à Silo. Elle a prié avec son cœur plein de tristesse, plein de confiance. Elle priait, on ne l'entendait pas crier, gesticuler, hurler. Elle remuait à peine les lèvres. Et Élie, qui n'avait pas la bonne vue, le sacrificateur de Silo, le grand prêtre de Silo, Élie, qui ne voyait pas très clair, a dit « Elle cuve son vin !» C'est vrai que à Silo, tous les ans, il y avait des réjouissances, des chants, des retrouvailles, des agapes. Et certains abusaient un peu d'alcool. Et il a pensé que cette femme avait un peu abusé de l'alcool. Alors il lui a dit gentiment, « Écoute, va-t'en, va cuver ton vin. » Non, je suis une femme qui souffre dans son cœur. Et je répandais mon âme devant l'Éternel. Voilà. Là, je voudrais attirer votre attention. Pourquoi venons-nous au culte? Certainement pour une parole qui encourage. Certainement pour un soutien, un élan. Mieux comprendre. Retrouver un enthousiasme. Remercier Dieu. Tout ça. Mais il y a parfois des raisons personnelles, comme Anne. Nous venons au culte pour répandre notre âme devant l'Éternel. Nous venons répandre notre âme parce que nous avons un grand chagrin, un grand souci. C'est pourquoi il faut dans nos cultes des temps calmes. On ne peut pas répandre son âme avec un chagrin pareil si c'est un enfer de bruit. Il faut penser à tout le monde. Les gens m'ont dit, moi je viens au culte pour me ressourcer et me guérir de mon chagrin. Alors il faut qu'on ait des moments calmes. Et le sacrificateur, il a vu son erreur. Oh là là. Il a vu son erreur qui aurait pu perdre cette femme. Elle aurait pu dire, si c'est comme ça, je quitte l'église. Il lui a dit, ma fille, va en paix et que Dieu exauce ta prière. Cette parole-là, voyez-vous, ça fait que Anne n'a plus eu le même visage. Son visage ne fut plus le même. Elle est rentrée chez elle avec... Elle n'était pas encore enceinte. Hein. Elle est rentrée chez elle avec confiance, joie. Elle avait reçu quelque chose. Venez à moi, vous tous fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Prenez mon joug sur vous, car mon joug est léger. Et mon fardeau mon joug est doux et mon fardeau léger. Je suis venu pour répandre mon âme, parce que dans ma profession ça va mal, parce que ma femme je l'ai frappée, parce que mes enfants je ne m'en occupe pas assez. Je viens répandre mon âme devant toi parce que je manque de travail et je m'enfonce et je coule. J'ai perdu l'enthousiasme d'autrefois. Je ne sais même plus, je ne me rends même plus compte que je coule. Je viens répandre mon âme devant toi. Je viens répandre mon âme parce que je suis en deuil de mon idéal que j'avais avant. Je voulais beaucoup de choses et j'ai rien eu. Je pose une question. Si l'adolescent, vous vous rappelez quand vous étiez adolescente, mes sœurs? Vous vous rappelez quand vous étiez adolescent, vos chrétiens surtout, vos rêves, vos désirs, votre enthousiasme, je ferai ça et j'irai là. Et puis aujourd'hui, avec l'âge que vous avez, si cet adolescent vous regardait aujourd'hui, vous, si l'adolescent que vous étiez vous regardait en disant, mais c'est ça que tu es devenu, c'est ce que tu as fait dans ta vie. Tu as abandonné ton idéal, tes recherches, ton plaisir, ta joie de vivre. Tu as fait du mal autour de toi. Ça, c'est un deuil. Alors, nous portons des traumatismes comme ça par notre faute. Nous portons des situations de famille que nous n'avons pas voulu. Dans une famille, quand il y a un enfant qui va mourir, on ne l'a pas voulu. Quand un enfant est malade, on ne l'a pas voulu. Quand il y a un divorce avec toutes ces déchirures et toutes ces complications et tous ces drames, eh bien, on n'a pas voulu ça, pas toujours. Et je viens au culte, Seigneur, pour répandre mon âme devant toi. Répandre, en hébreu, le sens était de déverser comme un vase qui déverse son eau, là. Je répands ça devant toi, Seigneur. Seigneur, Seigneur, viens me secourir. Nous avons besoin d'avoir des temps de prière dans le culte. Je pense à une famille qui était quand même très éprouvée, c'est la famille du fils prodigue. Un fils prodigue parti dans la détresse, il ne mange même plus, il n'a pas le droit de manger. Le fils de la maison est devenu dur, implacable, inflexible. Il est fou aussi à son niveau. Et le père qui se répand en larmes et qui attend son fils, et la mère qu'on ne voit pas mais qui doit pleurer dans son arrière-cuisine. C'est un drame de la famille. Et pour ça, on a besoin d'avoir dans les cultes des temps de calme pour dire « Seigneur, j'ai un frère sur les routes, je ne sais pas ce qu'il devient, il touche à la mort. J'ai un fils que je ne revois plus, j'ai une femme, je ne sais plus ce qu'elle devient. J'ai fait du mal à ton église, à ton serviteur, j'ai fait du mal à mes parents. Seigneur, Seigneur, on a besoin de se répandre, pas en démonstration. Moi je pense qu'il ne faut pas de démonstration. Il faut rester simple, Anne remuait à peine les lèvres. Seigneur, je veux un enfant. Jésus s'arrêtait sur chaque détresse. Le lépreux, il s'arrêtait. Bartimée s'est arrêté, appelez-le. L'enfant de Jaïrus, il est allé dans la chambre, tout seul avec le père et la mère et trois apôtres. Avons-nous reçu quelque chose pour la souffrance des autres? Ou est-ce qu'on vit au-dessus de la vague, en dansant et en chantant? Avons-nous reçu quelque chose? Hier, c'était le temps de mémoire au crématorium de Verne-sur-Sèche. On était une centaine de familles et des gens pleuraient parce que des enfants sont décédés et ils ont été crématisés. Ils pleuraient. Alors, j'ai pas dansé devant eux. Je me retenais pour ne pas verser des larmes aussi quand je les voyais. Il faut qu'on soit capable de s'arrêter si on a reçu quelque chose pour la souffrance des autres. Jésus a été envoyé pour guérir, pour délivrer les captifs. Il a été envoyé pour consoler. Il faut porter les fardeaux les uns des autres. Il ne faut pas être artificiel. Il faut donner quelque chose aux autres. Quand un membre souffre, tout le corps souffre. On est malheureux quand quelqu'un va mal. J'étais malade et vous m'avez visité. Jésus n'a pas dit, ne dira pas, vous m'avez guéri. Nous, parfois, on veut le don de guérison parce que c'est... c'est beau. J'étais malade et vous m'avez visité. Vous m'avez fait du bien par votre présence, votre regard sur moi, votre écoute. C'est ça, le ministère de l'Église premier. Bon, j'arrête. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais je le demande, ce vous savez, parce qu'on vit dans un monde de grande détresse. Et on n'a pas besoin d'un autre message que celui-ci. Venez à moi, vous tous, venez à lui, vous qui êtes fatigués et chargés. Autrefois, on avait ce panneau dans nos églises. Il parlait aux gens. Nous, on revient à Dieu. Et nos cantiques, ô toi qui souffres solitaire, les gens dans les cultes recevaient. Parce qu'on n'est pas tous au top, au même niveau. Il y a des gens qui rament toute la semaine. Ils n'en peuvent plus, ils ne savent plus quoi faire. Et ils entraient au culte. Ô toi qui souffres solitaire, Dieu te cherche pour te guérir. Dieu te cherche en cet instant. Ça leur parlait. On avait des cantiques qui mêlaient la foi, la louange et la détresse des gens. Parce qu'il faut parler de la détresse des gens. Jésus prenait du temps avec les malades. Bon, j'arrête. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, que ta parole nous mette en marche maintenant vers les autres. Nous ne voulons pas nous regarder nous-mêmes, rester repliés sur nous-mêmes. Nous voulons considérer la souffrance de notre monde, la souffrance des familles, la souffrance de la jeunesse, la souffrance de la vieillesse. Seigneur, donne-nous d'être sages et prudent, tu vas juger ton Église sur ce qu'elle a fait de bien ou de mal quand elle était dans son corps. Rue Marteneau, tu jugeras ton Église. Seigneur, donne-nous d'être proches, d'être à proximité, d'être attentifs, de regarder, d'écouter les autres. Amen.